saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, c'est toujours la CEN cause, André Duny, et je reçois... Bah, tu vas te présenter, Daniel. Je reçois Daniel Ibanez. Alors, il ne voulait pas que je dise président de la commission de la coordination des opposants à Lyon-Turin, alors tu te défines comment avec tes deux bouquins.
Il n'y a pas de président et il n'y a pas de porte-parole, donc je suis l'un des opposants qui effectivement se réunissent au sein d'une coordination qui regroupe à la fois des associations, à la fois des personnes physiques. L'idée étant que tout le monde est accueilli pour mutualiser les savoirs, échanger sur les expériences et donc émettre des avis qui sont un peu documentés sur ce projet Lyon-Turin.
Oui, il y a bien besoin de se documenter, donc c'est l'objet de la discussion. Je vois à ton œil minutieux qu'on a bien intérêt à revenir. Au fond, c'est quoi ce projet de TGV voyageurs et transbordement de camions, Lyon-Turin, qui nous sauverait la mise, créerait de l'emploi et ferait qu'on pourrait respirer dans nos vallées alpines.
Alors, ce projet, pour être parfaitement clair, c'est un projet de nouvelle ligne ferroviaire, hein, puisqu'il faut que les gens aient conscience qu'il existe déjà entre Lyon et Turin une ligne ferroviaire qui existe, qui a fait du fret, qui en fait encore un petit peu. Qui passe par le col du Mont-Cenis, enfin par un tunnel qu'on appelle le tunnel du Mont-Cenis, donc qui fait grossièrement Lyon, Ambérieux, Ambugey, ensuite de ça Culose, ensuite de ça Chambéry, ensuite Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, et qui va en Italie à travers ce tunnel de 13 km environ. Et donc, il y a une ligne qui existe. Le projet Lyon-Turin, c'est une deuxième ligne, une nouvelle ligne, qui partirait plutôt de Grenay, dans le projet, qui irait ensuite jusque à Avressieux. Avressieux se séparerait en deux nouvelles lignes, l'une qui irait sur Chambéry, pour desservir Chambéry, et l'autre qui passerait sous la Chartreuse, traverserait la plaine de Montmélian, passerait sous le massif de Belledonne, puis ensuite de ça, sous le massif du Glandon, pour rejoindre Saint-Jean-de-Maurienne. Et de Saint-Jean-de-Maurienne, partirait dans un long tunnel de 57 km environ, pour aller jusqu'à Suse, en Italie, puis ensuite de ça, aux environs de Turin. Voilà, donc ça c'est le projet, c'est environ 260 km de nouvelles lignes ferroviaires. Le prix de ces 260 km de lignes ferroviaires a été évalué par la direction du Trésor en 2012 à 26 milliards d'euros. Alors quand on parle de chiffres avec tant de zéros, revenons à la raison. 260 km qui coûtent 26 milliards d'euros, ça fait 100 millions d'euros du kilomètre. C'est important, c'est 100 millions d'euros pour chaque kilomètre. Parce que la Cour des comptes nous explique qu'à 25 millions du kilomètre, c'est-à-dire le quart, toutes les lignes nouvelles de TGV sont en déficit, sont en perte. Et donc, 4 fois plus cher, on va avoir réellement une difficulté, selon la Cour des comptes, à pouvoir équilibrer les résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais construit en France ni en Italie des lignes ferroviaires dont le prix de revient est de 100 millions d'euros du kilomètre. Hein? En général, c'est 20-25 millions d'euros du kilomètre, jamais 100 millions d'euros du kilomètre. Et donc, on a le droit de se poser effectivement la question. Alors, ensuite de ça, la justification de ce projet, c'est de pouvoir faire Paris-Milan en 4 heures au lieu de 7 heures aujourd'hui, et c'est de pouvoir reporter 1 million de poids lourds, ou en tous les cas les marchandises d'un million de poids lourds, sur le rail, pour que ce soit moins polluant. Alors bien évidemment, quand on a dit tout ça, on se demandera, et j'imagine que c'est votre question suivante, mais est-ce que vous n'auriez pas perdu quelques neurones en route pour vous opposer à un projet qui permet de faire Paris-Milan en 4 heures au lieu de 7 heures, et qui permet de sortir 1 million de poids lourds de la route ?
Je vous ai bien entendu, mais j'ai ouï dire, sans me dénoncer, que ce 1 million de poids lourds sur le rail, à la place de la route, qui nous tue les vallées alpines, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi les diesels domestiques, il y a aussi les fumées de cheminées à foyer ouvert. Et j'ai entendu dire que ça, on pourrait le faire avec la ligne existence. Est-ce que vous racontez des bêtises, des fake news, monsieur Ibanez?
Ben, écoutez,
d'ailleurs, c'est pas français, Ibanez.
Non, c'est d'origine espagnole et je dois ça notamment à mon père, puisque j'ai le nom de mon père, qui est venu en février 1939, poussé par les armées franquistes et qui, après avoir fait trois ans de guerre en Espagne...
D'une résistance à l'autre, alors.
...est passé effectivement à la résistance en France jusqu'en 1944 et a participé à la libération de Toulouse. Après être passé
donc
par
c'est la troisième résistance dans la famille.
Oui. Alors,
Franco, la résistance française et la résistance au Lyon-Turin, qui est pourtant un bienfait pour nos vallées alpines.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équivalence entre la résistance qu'a menée mon père et celle
où il risquait sa vie.
Mener. Voilà.
On ne sait jamais.
Je ne l'imagine pas. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 4 heures au lieu de 7 heures.
C'est merveilleux.
C'est important de le dire, puisqu'il y a en ce moment une loi qui passe à l'Assemblée où on dit, interdisons tous les vols domestiques pour des trajets qui peuvent se faire en train, en moins de 5 heures. Et je soutiens d'ailleurs cette proposition sur la loi d'orientation des mobilités. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit 7 heures au lieu de 4 heures, 7 heures aujourd'hui au lieu de 4 heures grâce à cette nouvelle infrastructure, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que les 7 heures aujourd'hui, c'est la vérité. Mais pour avoir 7 heures, c'est parce qu'on s'arrête 9 fois entre Paris et Milan. Alors qu'en 4 heures, on ne s'arrête jamais. Et donc, effectivement, si vous faites 9 arrêts à 5 minutes l'arrêt en moyenne, vous voyez que vous avez déjà 45 minutes. Vous voyez le truc? Donc, on vous dit c'est 7 heures, mais il y a déjà 45 minutes d'arrêt. Bon, alors que dans les 4 heures, bien sûr, il n'y a aucun arrêt. Et donc, on a fait le calcul avec une équipe de France 3 en 2015. On a fait tout le trajet, on a tout chronométré les arrêts. Et puis, il y a une deuxième petite astuce, si l'on veut, c'est que le TGV français qui fait Paris-Milan aujourd'hui ne peut pas rouler sur une voie à grande vitesse qui existe entre Turin et Milan. En fait, entre Turin et Milan, on peut faire le trajet en 44 minutes aujourd'hui par la voie à grande vitesse. Mais nous, comme nos motrices ne sont pas équipées du système de sécurité européen, on est obligé de passer par le côté et là, on met 1h30 au lieu de 44 minutes.
Entre Turin et Milan, on met combien ?
Entre Turin et Milan, 1h30.
Parce que la voie n'est pas sécurisée pour les TGV ?
Non, parce que nos TGV n'ont pas le système de sécurité
qu'ont les Italiens
à utiliser, qu'ont les Européens, puisque c'est le RTMS2, un système européen. Et donc, on met 1h30 au lieu de 44 minutes. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu 3 quarts d'heure dans les arrêts, les 9 arrêts qui ne sont pas comptés dans les 4 heures. Et puis, on repère encore 3 quarts d'heure parce qu'on passe par une voie normale, alors que si on changeait la motrice, on pourrait gagner 45 minutes. Donc, finalement, c'est 1h30 qu'on perd aujourd'hui. Si vous faites 7 heures moins 1h30, ben vous arrivez à 5h30. Et d'ailleurs, là-dessus, personne ne pourra me reprocher de mentir sur le fait qu'on puisse faire 5h30 au lieu de 4 heures. Pour une raison très simple, c'est que c'est écrit dans le dossier d'enquête publique de Lyon-Turin Ferroviaire. Donc effectivement, quand ils ont été obligés de présenter dans leur dossier d'enquête publique les temps réels comparables, ils ont bien marqué que le temps de parcours actuel, c'est sans les travaux 5h30 et qu'avec 26 milliards de travaux, on arrivera à le faire en 4 heures. La question, c'est faut-il dépenser 26 milliards d'euros pour gagner 1h30 ? Ça fait un peu cher la minute.
Donc ça... Pour gagner 1h30, est-ce qu'on en est sûr ? Parce qu'une fois, on avait fait un calcul, encore avec je ne sais pas quelles autres contraintes, qui faisait qu'on gagnait entre Lyon et Turin, à proprement parler, combien ? 30 minutes ? Combien on gagne entre Lyon et Turin ? Parce que là, tu parles de Lyon-Milan.
Je parle de Paris-Milan.
Oui,
la question
sur Lyon-Turin, les gens
Sur Lyon-Turin, on va gagner environ 1 heure, bien évidemment, puisque c'est là que sont les trajets supérieurs. Mais sur Lyon-Milan, aujourd'hui... On peut déjà gagner 45 minutes si on utilise le bon TGV avec le bon système de sécurité. Et ça coûte moins cher de faire ça que de refaire des tunnels partout. Voilà. Donc on peut
aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as contre les tunnels ? En quoi un tunnel de... on a dit 52 kilomètres.
57.
Hein. 57 kilomètres, hein, c'était exact. Oui, 57 kilomètres. Attends, mais des tunnels, il y en a trois. Il y en a sous la Chartreuse qui passerait à côté de chez moi.
Il y en a plus que trois.
Il y en a un sous la Chartreuse qui passerait à l'Épin-le-Lac.
Il y en a un sous la Chartreuse, donc entre Avressieux et Chaparillan.
Et Chaparillan.
Ensuite de ça, on a un autre qui partirait de l'Essau et qui va jusqu'à la Chambre en Maurienne. Un autre qui va jusqu'au Glandon. Mais avant, on a encore des petits bouts de tunnels.
Sous les sept lots, alors là.
Alors, c'est pas sous les Sept-Lots. Les Sept-Lots, c'est un petit peu plus au sud. Mais enfin, oui, ce massif, le massif des Sept-Lots, effectivement, c'est le massif.
Sous les Sept-Lots, il fait combien de kilomètres, en gros,
celui-là, il fait en tout de la plaine de Montmélian jusqu'à Chambéry, c'est 33 kilomètres de tunnel. Voilà. Plus un petit peu plus de 20 sur la Chartreuse. Donc, ça fait beaucoup de tunnels. Tout ça pose un problème. Mais
et 57, j'avais cru que c'était 50, moi, de Saint-Jean-de-Maurienne à Suze.
À Suze, oui, c'est 57 kilomètres.
D'accord. 57, donc, ça fait combien de gravats, tout ça ? Alors, c'est peut-être ça le problème ou c'est pas le problème ?
Alors, c'est l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, les gens qui vont se promener en Maurienne aujourd'hui pourront voir assez facilement que la Maurienne commence à ressembler à une carrière à ciel ouvert. Puisque, bien sûr, quand on creuse un tunnel, on se dit « Oh, bah c'est pas gênant, ça fait pas de bruit. » Mais en fait, quand on creuse, ça fait des masses de gravats, de déblais, qu'il faut stocker.
On les met
à ciel ouvert. Alors, on nous dit « Ah oui, mais on va en réutiliser. » Mais pour l'instant, ils sont tous déposés. Alors, vous avez des montagnes de déblais en Maurienne, aujourd'hui, rien que sur les galeries de reconnaissance. Imaginez que si on creuse... Parce que quand on dit 57 kilomètres de tunnel, il faut bien que nos auditeurs aient en tête que pour creuser 57 kilomètres de tunnel à double tube, on a creusé 114 kilomètres de galeries.
C'est ça.
Et oui, bien sûr.
Oui, on oublie. Comme nos auditeurs, on voit juste un gros trou.
On oublie.
C'est deux trous.
Et donc ça double.
C'est deux tunnels.
Et en fait, ça fait plus que doubler puisque on a des galeries de connexion entre les deux tubes. Donc voilà, tous les 300 mètres, vous avez encore une galerie de plus.
Transversale à ce moment-là.
Exactement. Et donc voilà, ça fait des millions de tonnes de déblais, des millions de mètres cubes de déblais. Et aujourd'hui, déjà, alors qu'on a creusé que des galeries de reconnaissance, on a déjà la Maurienne qui, pour une bonne partie, ressemble à une carrière à ciel ouvert. Je ne suis pas sûr que ce soit le souhait et le sens de l'histoire.
Je voudrais
juste peut-être terminer, puisqu'on a parlé des 7 heures au lieu de 4 heures, c'est aussi sur les camions. Puisqu'on nous dit on va reporter les camions. Alors il faut là aussi que les auditeurs aient bien conscience que j'imagine qu'on a quelques auditeurs qui sont jardiniers comme moi comme toi André. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on a un camion qui transporte de marchandises, il transporte en moyenne environ 16 tonnes de marchandises. Le camion à vide pèse 15 tonnes. Alors pour les jardiniers qui ont une brouette qui pèse le même poids que ce qu'il transporte, j'ai un vrai conseil, changez de brouette.
Et puis,
prenez-en une qui soit beaucoup plus légère. Et tant qu'à faire, autant avoir 80% de charge qu'on transporte dans sa brouette et 20% de poids de brouette, plutôt que 50% de poids de brouette et 50% de charge, parce que forcément, on marche moins et on économise un petit peu son énergie.
Donc, je confirme.
Voilà. Hein.
Donc, après le documentaire « Putain de camion », avez-vous vu ça ? Si vous ne l'avez pas vu en podcast, « Putain de camion » arte.tv.fr montrait qu'une bonne partie des camions en surnombre circulent sur les autoroutes européennes. Quasiment à vide.
Oui,
grâce à Amazon, cette espèce de plateforme d'horreur qui tue le climat. Il y a un client qui va être livré à Vienne, il y a un camion à Berlin, on charge l'entreprise à Berlin de 400 kilos et le 40 tonnes ou le 50 tonnes, il y a maintenant des 55 tonnes, je crois, c'est le maximum autorisé.
Le maximum autorisé en Europe, c'est 44 tonnes.
Le train fantôme, si vous avez peur, c'est parce que vous venez de monter à bord du train fantôme. Le train fantôme. Le train fantôme, si
Allez les enfants. Tenez, allez vous asseoir à côté du monsieur là-bas tout seul.
Alors, juste pour revenir
donc,
sur cette idée...
Donc, il fonctionne quasiment à vide. Là, tu
voilà.
dis en moyenne
alors, non,
16
ils ne font
tonnes.
16 tonnes, voilà, c'est la charge moyenne. Hein, là, ça veut dire qu'un camion chargé roule avec 18 tonnes en moyenne. Alors, mais comme il y a quelques camions qui roulent à vide, pas énormément, mais quelques-uns, parce qu'ils sont sur le retour, hein, une citerne de produits chimiques qui va en Italie, de Faisin jusqu'à l'Italie, bah, elle revient pas avec du lait dedans, elle revient à vide, hein, puisque forcément, elle est allée livrer un produit chimique et on peut pas mélanger les produits chimiques entre eux. Donc forcément, il y a quelques camions qui reviennent à vide, même si les transporteurs essayent de faire rouler leurs camions à plein, parce que sinon, ils perdent de l'argent.
Attends, donc, et ça fait, en moyenne, les plus gros, ils font 50, 60 litres de gazole.
Oui, on est plutôt sur une quarantaine de litres au 100.
Donc ça veut dire 120 kilos de CO2 au 100.
Oui, ça doit être à peu près ça, oui.
Oui.
Alors, ce qu'il faut dire sur cette histoire de report des poids lourds, c'est très simplement, dans les années 80, la voie existante dont on parlait tout à l'heure voyait circuler 120 trains de fret par jour. 120. Aujourd'hui, il n'en circule plus que 20 par jour. Donc, on peut imaginer qu'après avoir dépensé beaucoup d'argent sur la voie existante, hein, parce qu'on a fait des travaux pour la moderniser, etc., on peut imaginer que dans les années 2020, on puisse faire au moins la même chose que ce qu'on faisait dans les années 80, juste pour que chacun se rende compte des conditions de circulation dans les années 80. La première question, c'est quelle était la marque de votre ordinateur dans les années 80 ? Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont nous répondre qu'ils étaient pas nés, et d'autres qui vont nous expliquer qu'ils n'en avaient pas. Oui, ça, c'est fin des années 80, hein, oui.
En
86.
Non, 83, le premier.
Oui, 83, voilà, mais enfin, on avait des disquettes, etc. Quelle était la marque de votre téléphone portable? On n'en avait pas. Les plus avancés étaient les Radiocom 2000, etc. Donc, on était dans cette situation dans les années 80, pas d'informatique. Une voie qui n'avait pas été rénovée, etc. De la même manière, dans les années 80, on n'avait pas l'espace Schengen. C'est-à-dire que chaque train était arrêté et devait être contrôlé par la douane. De la même manière, dans les années 80, il se trouve qu'il fallait changer toutes les motrices, soit que le train arrive d'Italie, soit qu'il aille en Italie, parce que le réseau électrique ferré en Italie est de 3000 volts, en France 1500 volts, et donc il fallait changer les motrices. Toutes ces opérations, c'était entre 1h30 et 4h d'arrêt pour chaque train. Donc avec 1h30 et 4h d'arrêt pour la douane, pour changer les motrices, on faisait circuler 120 trains. Aujourd'hui, on a de l'informatique. Les motrices sont tritension, donc on n'a plus besoin de les changer. On n'a plus de douane et on fait 100 trains de moins que ce qu'on faisait dans les années 80. Vous voyez bien que ça n'est pas possible. Alors, nous, on a fait un calcul très simple, mais on n'a pas été tout seul. On l'a fait avec l'ancien responsable de la gare de Modane, qui a été d'ailleurs aussi membre de la présidence de la SNCF. On l'a fait valider par un ancien directeur de cabinet du ministère des Transports. Et on s'aperçoit que si on fait 100 trains de fret de plus, puisqu'on a la place pour 120 en travaillant comme dans les années 80, eh bien, si on met 28 remorques ou 30 containers sur chaque train, chacun va pouvoir faire le calcul, hein, puisque c'est du niveau CE2, CM1. 100 trains multipliés par 28 ou multipliés par 30, ça fait 3000 remorques ou containers par jour de moins sur la route. Ça tombe bien, il en passe entre 3500 et 3600 par jour en moyenne. Donc, vous voyez que la ligne existante a une vraie capacité. Et alors, bien sûr, si on fait ces 3000 multipliés par 350 jours, on s'aperçoit qu'on arrive à 1 million de poids lourds en moins. Et ils circulent environ sur la route entre le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus, 1 450 000 poids lourds. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de sortir comme ça, tout de suite. Il suffit de proposer le service, de trouver les conducteurs, etc. On est capable de sortir les 2/3 des poids lourds de la route sans dépenser un centime ou presque.
Si, il y a peut-être quelques travaux à faire, non ?
Les travaux sur la voie...
Quelques dizaines de millions quand même, non ?
Les travaux sur la voie ont été faits et il y a des plateformes à Ambérieu qui permettent de faire des chargements qui sont proches de la voie
ferrée. Les travaux ont été faits entre Ambérieu et Chambéry ?
Oui, bien sûr. On a mis tous les gabarits au gabarit GB1, qui est le gabarit européen de fret. Les voies ont été rénovées. Alors, il y a des entretiens, mais qui sont des entretiens normaux, si vous voulez, sur les voies à faire. Et donc, on est capable aujourd'hui, disons, dépensons quelques dizaines de millions, on est capable à la fois non seulement de lancer des plateformes d'intermodalité pour des containers ou des remorques transportables, on est capable y compris de subventionner les transporteurs qui pourraient accepter de passer sur le train parce que ça coûte un peu plus cher d'avoir du matériel compatible rail-route, et on pourrait tout de suite sortir les deux tiers des poids lourds.
Qu'est-ce que tu veux dire par intermodalité ? Je me mets dans l'esprit de.
Intermodalité, c'est-à-dire que on utilise différents modes de transport. C'est-à-dire que pour aller de Lyon jusqu'en Italie, si on fait de la monomodalité, par exemple, on va mettre les palettes dans un camion qui va rouler jusqu'en Italie. Si on le fait en intermodalité, on va mettre les palettes dans le camion qui va aller à Ambérieu. On va prendre la remorque ou le conteneur, la caisse mobile, qu'on va poser sur le train, qui va aller à la station en Italie, que ce soit à Milan ou que ce soit à Turin. Et là, il y aura un autre camion qui va prendre en charge les marchandises, la caisse mobile ou la remorque, pour l'emmener à son lieu de déchargement.
Dans ce sens-là. Et là, on a les systèmes de transbordement existants.
Tout existe. C'est pas qu'en France. C'est dans le monde entier. Il y a des wagons Kangourou pour les remorques, mais voilà. des wagons porte-containers, ça existe partout dans le monde. Donc, les grues pour les reporter du camion sur le wagon, tout ça existe. Donc,
on a parlé de Kangoo, mais là, j'ai entendu
Kangourou,
l'ancien maire de Lépin, que je salue au passage, qui est un cheminot fortement attaché à l'idée de faire la tranchée dans son jardin, à Lépin, et qui me dit, mais mon pauvre André, ça ne passera jamais par le tunnel de Modane. On ne peut pas faire passer les nouveaux containers par le tunnel de Modane.
Alors, les nouveaux containers, c'est des palettes Wild. Ce sont des containers qui font 45 pieds, qui ont à l'intérieur 2,44 m pour pouvoir mettre deux palettes Euro, de type Euro.
En hauteur.
En largeur. C'est-à-dire, elles font 1,20 m par 80. Donc, soit on en met 3 fois 8, 24 pour 2,40 m, soit on en met 2 en travers. Et donc, ça fait 2,40 m également, puisqu'elles font 120 par 80. Et donc, ces containers passent parfaitement. Il y a un nouveau container qui s'appelle le méga container qui, lui, effectivement, est un peu plus haut puisqu'il fait à lui tout seul 3,20 m. Mais si vous mettez ce container sur un wagon qui existe, qui est déjà homologué, qui est un tout petit peu... Non, pas Kangourou, un autre. C'est un wagon Twax qui est homologué par la SNCF, qui fait 975 de hauteur de plancher. Vous rajoutez les 3,20 m, vous êtes
Passer au tunnel.
Vous passez au tunnel.
Avec le wagon comment tu dis ?
Avec un wagon Twax.
Twax.
T-O-U-A-X. Qui est un wagon déjà homologué par la SNCF, et vous passez dans le gabarit GB1, je rappelle pour...
Donc on passe sous le tunnel, quel type de conteneur.
Oui, je rappelle pour les cheminots qui ne le savent pas, que le gabarit GB, enfin qui le savent parfaitement, mais pour nos auditeurs, que le gabarit GB1, c'est 4,32 m au-dessus des voies, et donc voilà, on voit bien que 3,20 m plus 975, on a encore de la place pour passer à 4,32 m aux angles, donc sans difficulté. Donc voilà, ce dossier est un dossier un peu spécial, ces méga containers, en fait, il y en a très très peu. La majorité des containers sont à 2,75 m, donc tout passe sans aucune difficulté, mais on nous explique que ça ne passe pas. Alors la question, c'est comment ça se fait que ça passait dans les années 80. On nous dit, oui, mais il y a des pentes. Dans les années 80, il y avait aussi des pentes. Oui, mais il y a des courbures. Dans les années 80 également, le matériel s'est amélioré, on a de l'informatique, etc. Faisons simple. Commençons à montrer qu'on sait faire quelque chose avant de vouloir... Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire du jeune conducteur qui vient juste d'avoir le permis, qui ne sait pas vraiment conduire et qui voudrait tout de suite s'acheter une Ferrari. On lui dit, avant d'acheter la Ferrari qui coûte une blinde, on va peut-être essayer de faire en sorte de montrer que tu sais conduire.
Alors là, tu es en train de nous dire que je me mets toujours à la place de ceux qui nous écoutent là, puisque l'idée, c'est quand même que, voilà, on va sortir les camions, on va aller plus vite en Italie, et que c'est plus écologique que l'avion, et tout ça. T'es en train de nous dire que c'est une vaste entreprise d'enfumage, puisqu'on vient de faire une émission sur les techniques de manipulation gouvernementale ou économique.
Alors,
donc là, c'est une entreprise de manipulation de quoi, ça? De l'opinion?
Alors, ce qu'il faut savoir...
Pourquoi cette information ne circule pas librement dans le grand public pour que les gens puissent se faire leur idée en disant, voilà, vous allez voter soit pour l'intermodal existant avec le wagon Twax, soit voter pour un Lyon-Turin ultra moderne et combien tu as dit 50 millions de tonnes de gravats, uranium et tout le reste, quoi, qu'on va mettre un peu partout dans les carrières, sur les champs de blé.
Oui, alors en tous les cas, c'est sûr que pour construire des voies, on a de l'emprise agricole, c'est environ 1500 hectares de terres agricoles qui devraient...
Réservées.
Oui.
1500 hectares. Oui. Ah, 1500 hectares, c'est l'ouvert du monde. Hein.
Faire des nouvelles voies, forcément, ça prend de la place. Hein.
Ça, c'est rien que pour les voies ou seulement aussi pour mettre des
tas de gravats? Pour les voies et aussi pour des déblais, oui, bien sûr. Enfin, pour l'ensemble du projet, c'est environ 1500 entre la France et l'Italie. Ce que je veux dire, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur l'histoire, de dire, bah voilà, il faut que la population soit informée. Parce qu'on pourrait se dire, non mais l'autre, là, qui vient nous expliquer que tout le monde a tort, il n'y a que lui qui a raison. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui est utilisé par le lobby pro-Lyon-Turin. Ne l'écoutez pas, ce garçon n'est pas sérieux. D'ailleurs, il n'est pas cheminot, il n'est pas ci, il n'est pas là. Pour tout vous dire, je parlais hier avec Marine Martin qui a dénoncé les problèmes de la dépakine pour les femmes enceintes et elle n'est pas médecin et pourtant voilà, Sanofi se fait condamner par la justice française à dédommager des victimes et pourtant elle n'est pas médecin, elle ne s'appelle pas Irène Frachon et Irène Frachon, elle, est pneumologue et comme elle était pneumologue, on lui a dit ah non mais elle ne peut pas intervenir sur les problèmes de cardiologie et les valvulopathie déclenchée par le médiator. Donc, enfin, il y a toujours une bonne excuse en fait pour que vous puissiez pas parler. Mais il se trouve
médiator qui n'a été interdit en France que 15 ans après les États-Unis.
Oui.
Dont le PDG, Monsieur Servier, était l'ami intime de Chirac, de Hollande,
Nicolas Sarkozy, qui
fréquentait assidûment les couloirs de l'Assemblée nationale.
Oui.
Alors, ça veut dire que les partisans du Lyon-Turin fréquentent.
Ils ne s'en cachent pas. D'ailleurs, ils ont une association de lobbying.
Comment elle s'appelle?
Qui s'appelle Comité pour la Transalpine, qui est présenté comme quelque chose d'institutionnel, alors que ça n'est que une association de lobbying. Mais ce que je voudrais dire sur cette information du public, parce que ça me paraît essentiel, c'est qu'effectivement, nous avons une procédure en France qui s'appelle la procédure d'enquête publique, qui permet normalement, avec un dossier d'enquête publique, à la population de prendre connaissance des enjeux et des analyses du projet. Il se trouve dans ce projet que ces deux dossiers d'enquête publique, celui des accès français et celui du tunnel de base, ont une petite omission. Et cette omission n'est pas anodine. C'est que, en 1998, le Conseil général des ponts et chaussées a sorti un rapport fait par M. Brossier, ingénieur général des ponts et chaussées, qui disait « Faire le Lyon-Turin est une hérésie, il faut prendre son temps. La ligne actuelle permet déjà de reporter un nombre important de marchandises et on n'a pas l'argent pour ça. » 1998, c'est il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, le Conseil général des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées disent « faut pas faire ». Et ils l'écrivent. En 2003, alors là, c'est pas le Conseil général des ponts et chaussées, mais associé avec l'Inspection générale des finances, dit que toutes les prévisions utilise une méthodologie douteuse, dit qu'il ne faut pas faire ce projet et qu'on peut utiliser les voies existantes et qu'on n'a pas l'argent pour payer un tel projet.
Donc, les prévisions, tu veux dire, de trafic de
camions ? Les prévisions de trafic, qui bien évidemment se sont toutes révélées fausses. Hein. Pour
Donc,
vous donner un exemple...
Donc il n'a pas tant augmenté que ça, en clair.
Aujourd'hui, on a les mêmes trafics en 2018 que ce qu'il y avait en 1993. Donc, vous voyez, on n'est pas... alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir les camions de la route. Hein. L'idée, c'est qu'il faut les sortir et les sortir tout de suite et profitons-en pour donner les bonnes attitudes. La deuxième chose, c'est que vous avez un rapport du Conseil général des ponts et chaussées et de l'Inspection générale des finances qui vous disent tous les deux, Toutes les prévisions sont fausses, elles sont trop optimistes, elles ne pourront pas être réalisées. Et la vérité, c'est que vous avez une prévision qui est faite à l'enquête publique pour 2017, alors ça tombe bien, puisqu'en 2017, on peut faire le constat. Et cette enquête publique, elle vous dit, en 2017, il y aura, entre la France et l'Italie, à travers le Mont-Blanc, le Fréjus et la voie de chemin de fer, l'équivalent de 3 880 000 poids lourds. En marchandises. Les marchandises transportables par 3 880 000, près de 4 millions de poids lourds. En vérité, en 2017, vous avez les marchandises transportables par 1 600 000 poids lourds. C'est-à-dire 40% de la prévision. Et donc, vous vous doutez bien que, forcément, vous vous dites, ben, pourquoi on ne nous a pas montré les documents et les rapports de l'Inspection Générale des Finances du Conseil Général des Ponts et Chaussées, ce sont quand même des experts. Alors, on peut avoir des divergences avec eux, mais enfin, quand ils disent quelque chose, la moindre des choses, c'est que si on informe la population, on lui donne toute l'information. Eh ben non, dans les dossiers d'enquête publique, ces rapports ont disparu. De la même manière que le rapport de la Cour des comptes de 2009 a également disparu. Et donc, on se retrouve dans une situation où, clairement, les enquêtes publiques n'ont pas permis d'informer la population des enjeux, des critiques sur ce projet, et on a dit « Ah mais non, tout le monde est pour », alors qu'en fait, il a été écrit dans l'histoire depuis 20 ans par toute l'administration centrale que ce projet était un projet pharaonique, impayable, qui n'était pas finançable, et que, en plus de ça, la voie existante permettait de faire les choses. Donc, ce que je vous ai dit en préalable, finalement, était déjà écrit. Nous ne le savions pas, puisque nous, on découvrait le dossier en 2011. Mais, enfin, moi, je ne le savais pas. Et au final, en fait, tout était écrit par l'administration, mais tous ces rapports ont été cachés à la population, et on lui a raconté la belle histoire que la ligne existante n'était pas en mesure de répondre aux besoins, qu'il fallait absolument ce nouveau tunnel et cette nouvelle infrastructure de 260 km, parce que c'était ça qui allait sauver la planète quasiment, alors que ben, vous avez aujourd'hui une ligne existante et que si problème il y a, il ne vient certainement pas de là.
guerre.
Vous voyez, on vient de faire une émission sur la manipulation de masse de nos gouvernants. Je vous ai raconté comment j'ai écouté pendant une journée France Info sur la pénétration par 30 gilets jaunes d'une salle d'opération, enfin d'une salle de réanimation, selon monsieur le ministre de l'Intérieur Castaner. Je vous ai démontré qu'ayant suivi cette émission de 6h du matin à 18h le soir, ça s'est déballonné parce qu'ils ne pouvaient plus pas faire autrement. Il y avait des vidéos, des photos. Et là, cet invité, fils de terroriste espagnol, nous dit que là, on a affaire à une sorte de terrorisme intellectuel, c'est-à-dire que l'État ne donne pas les informations à ses citoyens concernant les vrais enjeux, les vraies prévisions de trafic des camions qui aujourd'hui asphyxient les vallées et qu'on a tous les moyens avec le service public, excusez-moi, l'EPIC n'existe plus, enfin n'existera bientôt plus. La société SNCF qu'on a payée avec nos impôts n'existera bientôt plus. C'est une société anonyme, ouverte à la concurrence. Enfin, pour l'instant, c'est encore un service, public, presque public, puisqu'on a supprimé 80 trains sur 100, c'est-à-dire 8 sur 10 sur la ligne Saint-André-le-Gas-Chambéry. Donc je vous ai parlé ici plusieurs fois. Donc on cache à la population des choses.
Oui, alors on cache des choses à la population, mais il y a une idée reçue qu'il faut absolument casser. Alors déjà, je ne suis pas fils de terroriste espagnol, mais fils de guérillero, ce qui est un petit peu différent.
Mais ça c'était de l'humour.
Ah d'accord, non, comme tout le monde ne sait pas forcément, voilà, les guérilleros espagnols.
Vous étiez appelé terroriste à l'époque,
Les guérilleros espagnols étaient effectivement dans la résistance appelés...
J'avais un grand-père qu'on appelait terroriste.
Terroriste par les Monsieur Papon et les Philippe Pétain, c'est ça, sans aucun doute.
C'est ça.
Mais effectivement, ils ont participé à la libération de la France. Ce que je voudrais dire, c'est que sur ce projet Lyon-Turin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous a dit, et il y en a beaucoup, hein, c'est d'ailleurs une des grosses difficultés à pouvoir travailler sur ce dossier, c'est que beaucoup de gens vous disent, mais quand même, le train, c'est bien, c'est du service public, vous voyez, le train, c'est bien parce que c'est du service public. Alors, déjà, il faut savoir que ce projet est un projet de partenariat public-privé, ça n'est pas une invention de Daniel Ibanez ou d'une fake news, c'est écrit dans le dossier de presse de Lyon-Turin Ferroviaire en 2 février 2014, c'est répété le 18 mars 2014 à la Caisse des dépôts et consignations sous la présidence de Michel Bouvard, sénateur Les Républicains. Et c'est d'ailleurs dit par le président de la mission d'appui au partenariat public-privé, M. Noël de Saint-Pulgent, qui ce jour-là dit que le schéma retenu est effectivement un schéma de partenariat public-privé. Et c'est en plus écrit dans les documents d'enquête publique. Et pour couronner le tout, c'est écrit en plus dans le traité franco-italien où il est écrit qu'il faudra mobiliser des fonds privés. Voilà. Alors, donc, ça, c'est, il faut bien comprendre que le projet Lyon-Turin n'est pas un projet de service public, c'est un projet de privatisation du rail avec un système assez intelligent d'obligations en contrepartie de la subvention européenne. Il serait un petit peu long de l'expliquer.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Un projet de privatisation? Ça veut dire que le financement sera fait par...
C'est-à-dire que le financement... En fait, quand vous demandez une subvention à l'Union européenne, l'Union européenne a écrit dans le livre blanc des transports de 2011, écoutez, si vous voulez une subvention, vous devez faire un montage financier, et ce montage financier doit obligatoirement intégrer la capacité à faire un partenariat public-privé. Résultat des courses. En fait, quand on vient vous dire en France, regardez, ça va pas nous coûter cher parce que l'Europe va subventionner le projet, ce que l'on oublie de vous dire, c'est que la France a d'abord subventionné l'Europe pour pouvoir retirer sa subvention. Donc, vous subventionnez pas l'Europe sur le projet, ça va quand même plus facilement. Et deuxièmement, la contrepartie de la subvention européenne, c'est écrit au point 56 et 58, ou 36 et 38, si je ne me trompe, du livre blanc des transports de 2011, la contrepartie de l'obtention d'une subvention européenne, c'est l'engagement d'étudier les systèmes de partenariat public-privé pour le financement. Voilà. Alors, c'est donc, grossièrement, vous voyez, c'est une économie circulaire. Vous envoyez l'argent à l'Europe, qui vous le renvoie, économie circulaire. La seule chose qu'on a oublié de vous dire, c'est que pour vous le renvoyer, on vous a demandé de faire un partenariat public-privé, une privatisation des services publics. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de cheminots qui ignorent ça et il serait bien qu'ils en prennent conscience, d'ailleurs aussi des partis qui ignorent ça. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que il y a une autre idée reçue, hein, le train c'est bien parce que c'est soi-disant du service public, mais il y a une autre idée reçue, c'est que le train coûte forcément plus cher que la route. Et que si les transporteurs choisissent la route, c'est parce que ça leur coûte moins cher, qu'il y a du dumping social, j'ai encore lu ça ce matin sur Internet à propos de la ligne Perpignan-Rungis.
Et oui, ils suppriment une ligne, chers auditeurs, j'allais vous en parler.
Une ligne pour 25 000 poids lourds, vous voyez, nous on a une proposition.
Voilà, c'est l'équivalent de 25 000 poids lourds pour amener les fruits et légumes du sud-est, de l'extrême sud-est, ferme une ligne qui a très bien fonctionné pendant des années, avec des wagons frigorifiques un petit peu anciens, mais qui pourraient tenir, d'après les cheminots, encore une dizaine d'années. Bien sûr, il faudra investir dans du matériel nouveau, mais c'est toujours le même principe de manipulation.
Enfin, on parle pas de milliards, on parle de dizaines de millions.
Voilà, quelques millions.
Pour parler de ça, puisqu'on parle de cette ligne et ça fait vraiment tous les titres de la presse, mais nous faisons une proposition pour sortir 800 000 poids lourds à 1 million de poids lourds tout de suite sur la ligne existante, personne n'en parle.
Pourquoi ? Les médias sont aux mains de ceux qui ont intérêt à financer le projet. Mais qui c'est qui finance le partenariat public-privé ? Éclairer nos auditeurs parce qu'on va arriver à...
C'est le contribuable.
C'est
le contribuable qui paye son impôt. L'impôt est versé à l'État français. L'État français va payer une partie. L'État français subventionne l'Europe qui lui renvoie de l'argent en contrepartie de la privatisation. Et puis, ensuite de ça, effectivement, il y aurait, selon le traité, l'obligation d'avoir un partenaire privé qui viendra et qui tirera
les marrons du feu. Alors, c'est qui le partenaire privé ?
Il n'est pas encore décidé. Mais je voudrais Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui me paraît absolument essentiel, c'est que les gens pensent toujours que la route est moins chère que le rail. Sur l'axe Lyon-Turin, c'est faux. La route coûte 30% plus cher que le rail. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser. Pourquoi les transporteurs routiers roulent sur la route alors que ça leur coûte 30% plus cher que s'ils mettaient les marchandises sur un train ? Et on en est tellement là que j'ai moi-même signé comme représentant des Amis de la Terre une lettre avec la Fédération nationale des transporteurs routiers à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour lui dire « Écoutez, madame, voilà, les transporteurs et les environnementalistes s'associent pour vous dire, je lis le texte, « Nous tenons à vous affirmer ici notre engagement commun pour participer à la création d'un service de navette de transport combiné non accompagné dans les meilleurs délais. En effet, les transporteurs de marchandises français se trouvent aujourd'hui dans une situation de concurrence déloyale compte tenu de l'utilisation massive de la part de concurrents européens de traction, c'est-à-dire des camions qui tirent les remorques, d'Europe centrale. Et donc, ils disent, une offre de navette régulière permettrait aux transporteurs français de relocaliser l'emploi des conducteurs routiers entre les lieux de chargement et les plateformes d'intermodalité, tout comme le service de navette créerait en lui-même des emplois pérennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le plus gros syndicat, la plus grosse fédération de transporteurs routiers qui écrit au gouvernement, qui dit « Nous, on veut monter sur le rail. » Parce que ça va nous coûter moins cher et on sera dans une meilleure situation de concurrence. Et la réponse de la ministre, c'est « Mon agenda est trop chargé. Je vous renvoie vers le directeur de la DGTM que nous avons rencontré il y a 2 semaines avec les routiers. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que...
Elle renvoie à qui ? Au directeur de quoi ?
De la Direction Générale des Infrastructures de Terrestre et de la Mer.
Donc à la partie...
Au ministère des Transports, mais les services techniques du ministère des Transports. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument revenir sur Terre dans ce dossier. Aujourd'hui, les transporteurs de marchandises, les transporteurs routiers avant étaient des transporteurs de marchandises et ils choisissaient en fonction du service qu'on leur proposait et de la capacité à pouvoir transporter les marchandises, ou le rail ou la route. Aujourd'hui, la SNCF ne leur offre plus d'alternative pour charger leurs marchandises sur des trains. Et donc, ils utilisent la route alors que la route leur coûte 30% plus cher. Et donc, il va falloir arrêter de mentir aux contribuables, Aujourd'hui, il est possible de sortir l'équivalent de 800 000 à 1 million de camions de la route assez rapidement, en tous les cas tout de suite entre 300 et 400 000 sans aucune difficulté. Il y a l'adhésion des transporteurs de marchandises qui prennent la route alors que ça leur coûte plus cher. Et donc, il faut simplement revenir à la raison et travailler sur ce dossier Lyon-Turin, le mettre en suspens, l'arrêter aujourd'hui pour pouvoir montrer qu'on est capable de le faire, de travailler. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont tous les services de l'État. Et les politiques se sont exonérés de toutes les conclusions des services de l'État. SNCF Réseau a mis le doigt sur la couture du pantalon, a menti à la population dans les dossiers d'enquête publique. Tout ça est parfaitement inacceptable parce que ça coûte 100 millions d'euros du kilomètre, 4 fois plus cher que n'importe quelle voie ferrée n'importe où en France. Et dans le même temps, on ferme les gares. Dans le même temps, on réduit les circulations ferroviaires de TER. Tout ça est absolument inacceptable. Et il va falloir qu'un jour, les responsables politiques qui ont pris les décisions de poursuivre contre l'avis des services de l'État rendent des comptes.
Oui, mais si on veut bien comprendre nos auditeurs, j'ai fait 2 ou 3 émissions sur la mondialisation, comment ça marchait, on essaye de comprendre les mécanismes. Parce que là, on se dit encore un uluberlu qui veut nous faire croire qu'il y a une société internationale, un cabinet noir. Quels sont les intérêts les plus puissants du système économique pour asphyxier le transport SNCF camion? Quels sont les intérêts si forts qu'on puisse, devant des arguments qui semblent aller de soi pour quelqu'un d'un peu raisonnable, hein, il y a bien quelque chose qui pousse à faire, par exemple, pour moi qui me suis un peu bagarré sur Center Park de Roibon, il y a des gens qui poussent parce qu'il y a des actionnaires, il y a du pognon à faire, et qui a intérêt à ce qu'on emploie de l'argent public, et qui a intérêt à collaborer à ce projet du côté du privé? Qui a intérêt du côté des hauts fonctionnaires de l'État, des politiques locaux et nationaux de SNCF Réseau à vouloir continuer de pousser les feux dans un tunnel absurde? C'est ça qu'on voudrait comprendre.
Oui, aussi. Alors, bon, le monde serait facile. Alors, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Le monde serait facile s'il y avait des gentils, des méchants et qu'on pouvait dupliquer tous les dossiers. Alors effectivement, dans le dossier Roibon, vous avez Pierre et Vacances qui a un intérêt particulier à construire des immeubles en défiscalisation, puisqu'à chaque fois qu'il construit un mètre carré, il gagne environ 2000 euros de marge par mètre carré revendu. Et revendu sur une période assez courte, il fait des opérations immobilières plus que des opérations de centre de vacances. Donc c'est facile, effectivement, vous avez un Pierre et Vacances qui cherche à construire, parce qu'à chaque fois qu'il construit, c'est là qu'il fait la marge, et que d'ailleurs ça fait un fonds de péréquation avec les pertes qu'il peut faire sur certains centres de vacances. C'est facile. Et donc vous avez des élus qui disent « bah oui, tiens, c'est bien, ça va me créer de l'emploi, même si ça n'en crée pas parce que c'est des emplois précaires, etc. » Là, sur le Lyon-Turin, bien sûr que le BTP peut avoir des intérêts à construire un chantier à 26 milliards. Sauf que le BTP aujourd'hui est très embêté parce qu'il a déjà beaucoup de mal à pouvoir abonder en personnel sur les chantiers du Grand Paris Express, du Charles de Gaulle Express. Donc, si vous voulez, ils sont très embêtés au BTP parce que, clairement, ils ont déjà toute la main-d'œuvre qui est prise là-bas, il va falloir sous-traiter, etc. C'est pas le chantier le mieux. Et d'ailleurs, vous avez des déclarations du BTP qui sont un petit peu en retrait. Ça n'est pas l'administration centrale, puisque l'administration centrale a écrit, a répété, hein, la Cour des comptes a encore répété en 2018 et en 2019 que ce projet était une aberration économique et qu'il ne fallait pas le faire. Ce ne sont donc pas. Mais vous avez tout un tas de politiques qui vont voter sans savoir de quoi ils votent, sur quoi ils votent d'ailleurs. Hein. Donc vous allez avoir tout un tas d'élus qui vont voter en se disant « bah oui, tiens, sortir 1 million de camions de la route, c'est super ». Et quand on leur dit, ah bah oui, mais une infrastructure du 19e ne peut pas répondre aux enjeux du 21e siècle, ça leur paraît d'une évidence, donc il n'y a pas besoin de chercher plus, vous voyez. On leur simplifie. D'ailleurs, il y a un des lobbyistes du Lyon-Turin qui dit dans une interview, ah bah, nous, de toute façon, on prépare de la bouillie acceptable pour les élus. Vous voyez, c'est un petit peu le truc.
Qui disait ça?
C'est Monsieur François Lépine, oui, c'est exactement ça, dans un reportage qui a été publié je veux pas dire de bêtises, mais en novembre 2015, par France 3, sur Pièce à conviction. Enfin, vous pouvez retrouver, d'ailleurs, sur notre site internet, lyonturin.eu, l'extrait. Et donc, vous avez clairement aujourd'hui, je vous invite.
François Lépine, c'est le président de.
C'est le délégué général de Lyon-Turin, de la Transalpine, et il a été président de Lyon-Turin Ferroviaire pendant plusieurs années. À partir de la création, il était le président, c'est un ancien préfet, donc voilà, il assume parfaitement de préparer une bouillie acceptable pour les élus. Après, les élus ont le droit d'accepter ça, et c'est leur responsabilité. Ce que je vous
donc
dis.
Donc la crétinisation est en marche.
Vous savez, chers auditeurs, si vous me permettez juste, faut des fois un peu décaler les voix pour que ce soit pas trop ennuyeux, hein, que ce soit. Vous soyez en train de faire votre toilette ou autre chose, mais c'est quand même hallucinant de voir. Je suis effaré que le tour du lac d'Aigbelette est bientôt une forêt de béton et que le maire, très sympathique par ailleurs, on se tape dans le dos, c'est pas le problème. Bien que même quand je m'énerve, dit bah, on a encore 14 hectares à urbaniser à Novalaise. Vous rendez compte, il y a 1500 habitants à Novalaise, 14 hectares à urbaniser, mais le lac sera mort. Oh, lac! « Salut, ô lac couronné de bois sombre », disait Lamartine. Ben, « Salut, ô lac couronné de béton ». Comme quoi, et on discute avec les élus en particulier, mais non, mais c'est l'attractivité du territoire, ça accueille les touristes, ça développe le pays, ça fait de l'emploi. Oui, ça fait de l'emploi sur la mort future programmée, et il n'y a pas moyen de décrocher.
Et personne ne pourra payer les péages d'une ligne qui coûte 100 millions d'euros du kilomètre.
Mais
déjà, les transporteurs peuvent pas payer les voies à 25 millions d'euros du kilomètre. Qui va payer à 100 millions d'euros du kilomètre? Tout ça n'existe pas.
Tu mets la responsabilité essentiellement
sur les
fait que les élus ne bossent pas les dossiers.
En tous les cas, qu'on ne vienne pas me dire, ce sont les transporteurs routiers qui poussent
Puisque vous avez
ils demandent à monter sur les rails et tout de suite, et personne ne le veut, personne ne le fait, et en tous les cas, on aurait pu le faire depuis très longtemps.
Bon, ben, on va rester là-dessus.
Oui, mais je reviens
tu
quand
veux
vous...
Tu veux rajouter
Je peux revenir quand vous voulez, si vous voulez. Je peux même répondre aux questions des auditeurs si vous faites ça sur votre radio, sans aucune difficulté.
J'ai annoncé simplement que j'avais du mal à répondre sur mes mails. Je suis un peu en... Par contre, j'ai redit à la précédente émission sur les manipulations de masse, d'État et de... que par SMS, on peut répondre. Si vous me faites un SMS, je l'envoie illico à Daniel Ibanez et qui vous fera peut-être une réponse groupée ou circonstanciée.
Voilà, alors plutôt par mail pour moi, ça sera plus simple.
Entre la culture de petits pois dont je suis fortement jaloux et bien sûr qu'il a déjà mis, lui, depuis longtemps, ses tomates.
Voilà, qui poussent.
De variétés.
Oh, ben, il y en a plusieurs. Il y a de la rose de Berne.
Ah, la rose de Berne.
Rose de
la
Berne,
green zebra.
Bonne.
La green green.
Un petit peu.
La miel du Mexique.
De noir de Crimée.
La noir de Crimée.
Un petit peu de tomate.
Mais la jaune.
De l'ananas.
Ah, l'ananas. Ah, oui, l'ananas. Oui, dans sûr, une salade de tomates. Voilà, pour le décor et le goût.
J'en ai mis 50 pieds.
Et pas de Saint-Pierre.
Je dois avoir un peu de Saint-Pierre. Ah. Si, j'ai de la Saint-Pierre.
Voilà. Eh ben, écoutez, on se retrouve au moins là-dessus. Vous avez entendu. Un résistant. Merci beaucoup et vous pouvez toujours, je répète, nous mettre un petit mot sur SMS et vous pouvez même dire qu'on vous rappelle au 06 75 80 05 79. Et sinon, le mieux pour vous, c'est de rejoindre la coordination des opposants au Lyon Turin.
Et on a un site internet lyonturin.fr et vous aurez un onglet contact. Vous
tout attaché, Lyon-Turin.
Lyon-Turin, tout attaché, lyonturin.eu.
.eu. Lyonturin.eu.fr. Lyonturin.eu. Et vous tombez sur le site et vous avez toutes les infos. Et ben voilà.
Merci.
Merci.
Au revoir.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.